Yuri. La première fois que j'ai rencontré Amir, c'était dans des conditions tragiques, à l'enterrement de l'un de mes vieux amis. Je me souviens de ce jeune adolescent habillé d'un costume noir, portant des lunettes de soleil noir et ne laissant rien filtrer alors que tous les autres proches de Naël pleuraient à chaudes larmes. J'avais été surpris de voir aussi peu d'émotion chez le neveu de Naël, alors qu'ils étaient tous deux très proches. Amir n'avait pas ôté une seule seconde ses lunettes et n'avait fait aucun commentaire. C'était comme si cette mort ne l'affectait pas. Amir était bien plus jeune et beaucoup moins imposant qu'actuellement. Mais déjà à cette période, la noirceur et la froideur se dégageaient de lui. Il semblait avoir perdu toute l'innocence censée caractériser un enfant. Amir n'était pas un enfant, c'était un soldat. Un soldat né pour vaincre et tuer. Les soldats n'ont pas d'enfance. Naël était un allié de taille pour moi et surtout un très bon ami. En effet, avant de me faire pincer et de prendre 10 ans de prison ferme, j'étais un grand trafiquant de cocaïne et j'avais compté longtemps sur le soutien sans faille de Naël Ben Khalif pour me développer. J'avais collaboré avec lui pour l'obtention de nombreux terrains et de marchandises. Quand on travaille avec un Ben Khalif, on est sûr d'obtenir ce que l'on souhaite. Au fil du temps, ma collaboration avec Naël s'était transformée en une belle amitié. Je me remémore la fois où Naël m'a sauvé la vie lors d'une attaque orchestrée contre moi. J'étais allé dans un entrepôt pour récupérer de la marchandise accompagné de Naël seulement, puisque la transaction n'était pas censée être risquée. Mais c'était un piège, puisque le chef des opérations a tenté de me tirer dessus. Heureusement, Naël m'a poussé avant que la balle m'atteigne. Naël avait de nombreux amis et alliés, puisqu'il était de nature joviale. Néanmoins, il avait tendance à accorder sa confiance bien trop facilement, même à des gens qui ne la méritaient pas. C'est sans doute pour cette raison qu'Amir se méfie de moi aujourd'hui. « Je ne sais pas ce que tu viens faire dans cette cellule avec cette jeune femme, mais tu peux compter sur ma discrétion. » Tout ce qui se passe ici restera entre nous. J'ai une dette envers ton oncle que je n'ai jamais pu payer. C'est le moment. Amir me regarde dubitatif. Je poursuis. Ramon est un peu vulgaire, mais c'est un homme digne de ta confiance aussi. Il a travaillé pour moi pendant des années et a pris 10 ans de prison avec moi. On lui a proposé de réduire sa peine s'il me dénonçait, mais il a refusé. Il m'est loyal. Tu peux être sûr qu'on ne dira rien. Ramon hoche la tête, puis il la baisse. La fille regarde Amir pour voir ce qu'il compte faire. Il se rapproche de moi et me tend sa main. Je la serre. Je plante mon regard dans celui d'Amir, un regard qui traduit une certaine fascination. Je ne trahirai jamais le sang de celui à qui je dois tout, je promets. Naël était mon ami et je préférerais me faire couper la langue que de trahir un ami. Ton oncle était vraiment une bonne personne. Il a fait énormément pour moi. Tu ne peux pas imaginer à quel point il avait le cœur pur. Amir hoche la tête puis lâche ma main. Je fais un signe de tête à Ramon qui se tourne vers le mur et ferme les yeux. J'en fais de même.
Amir soulève chacune des dalles de cette cellule. Je l'imite. Les deux détenus nous tournent toujours le dos. Au bout d'une 20aine de minutes, je découvre une image sous une dalle. Je ne fais pas de commentaires pour ne pas attirer l'attention des deux hommes, en qui je n'ai pas vraiment confiance. Je saisis ma trouvaille et remets la dalle à sa place. Amir paraît satisfait. Il prend l'image et l'examine. Il s'agit d'une simple photographie, pleine de poussière et très abîmée sur les côtés, avec une étoile au centre. Je ne comprends pas en quoi cela va nous servir pour trouver la puce. Amir lâche un juron en voyant que cet indice ne nous avance pas autant qu'il l'espérait. Je sais qu'il aimerait parler, mais qu'il s'abstient, par discrétion. Il me fait signe de garder l'image. Je hoche la tête et la prends. « Vous pouvez vous retourner », dit Amir aux deux prisonniers. Ces derniers s'exécutent et nous scrutent sans parler. Je pars m'asseoir dans un coin de la cellule à l'opposé d'eux. Nous allons devoir passer la nuit ici jusqu'à ce que le directeur vienne nous ouvrir la porte à exactement 6h50 pour quitter la prison sans être aperçu. Amir voulait sortir bien plus tôt, mais chaque entrée et chaque sortie de cellule est enregistrée. Les gardiens des cellules d'isolement reviennent à 7h, alors si nous partons à 6h50, Il n'y aura pas de grosse différence entre notre départ et leur arrivée, ce qui n'attirera pas l'intention sur nous. Amir vient s'asseoir en face de moi. J'ai une vue d'ensemble sur son dos. Il croise les bras et fixe Yuri et Ramon. Il se tourne vers moi. Dors. La journée a été longue. Je monte la garde. M'indique Amir. Je l'interroge du regard. Yuri semble avoir compris, car il rit. Tu n'es pas obligé de veiller toute la nuit. Aucun de nous ne touchera à ta copine si tu t'endors. Tu peux dormir tranquille et elle aussi. Lui affirme Yuri. Je m'attendris en comprenant qu'Amir compte veiller pour me protéger. Des hommes qui n'ont pas assouvi leurs pulsions depuis longtemps et qui se retrouvent dans la même cellule qu'une femme, ça ne m'inspire pas confiance. Déclare Amir. J'aimerais éviter de devoir tuer l'un de vous pour avoir osé poser ses mains sur elle. Et puis ce n'est pas ma copine, c'est ma femme. Précise Amir. Yuri regarde Amir avec une admiration marquée. Tu peux dormir tranquille. Me répète Amir. Je suis là. 2 jours plus tard, Villa Ben Khalif. Nous sommes rentrés à la villa après notre petite escapade en prison et avons montré le nouvel indice aux autres. Aucun n'a compris, ce qui était prévisible. J'ai l'impression que plus le temps passe et plus la puce s'éloigne de nous. Saad a vraiment tout mis en œuvre pour éviter qu'elle soit retrouvée facilement. Mais Amir n'abandonnera jamais sa quête. 13h59. Je peux te parler ? Amir lève la tête et me fixe. Il ne m'a même pas entendu entrer dans son bureau. Il était en train de lire un livre. Il pose son livre et me fait signe de m'asseoir en face de lui, attentif. Depuis qu'on a quitté la prison, je lui dis, nous n'avons pas reparlé de tes problèmes de comportement, ni de tes médicaments. Il se braque. Je savais qu'il n'allait pas vouloir en parler, mais nous n'avons pas trop le choix. Ça ne peut pas rester en suspens alors que sa vie est en danger. « Qu'est-ce que tu veux ajouter ?» demande Amir froidement. « Tu sais tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. » Je suis certaine qu'il a envie de me crier dessus, mais qu'il s'abstient pour éviter une dispute. « Tu sais très bien que tu ne m'as pas tout dit. » Je lui réponds. « Tu m'as juste donné les informations les plus importantes. Je souhaite tout savoir, même ce qui peut te paraître futile. » Il se détourne de moi, gêné. Il se lève, mais je le retiens par le bras. « Fie-toi à moi !» je lui dis. « Laisse-moi tranquille !» m'ordonne Amir. « S'il te plaît, Amir !» je le supplie. Il se rassoit à son bureau, il passe ses mains sur son visage. « Quand je prends mes injections, je suis vulnérable, très vulnérable. Elles me rendent extrêmement faible pendant quelques minutes. Personne ne le sait sauf Ayman, car si l'un de mes ennemis l'apprend, il pourra s'en servir contre moi. Quand je les prends, je suis incapable de bouger. Tous mes sens sont mis sur pause. Ces calmants qui freinent mes pulsions jouent sur mon corps aussi. J'ai toujours fait en sorte de les prendre bien avant de me battre pour éviter d'être impuissant face à mes ennemis. Quand je m'injecte mes seringues, je suis immobile pendant quelques minutes. Puis ça va mieux. Je me demande ce que ça fait de le voir vulnérable. Je préfère ne pas l'imaginer. Tu penses que ça va aller, maintenant que Dilara n'est plus présente? Tu seras réellement en mesure de te contrôler ? Il réfléchit, puis il soupire. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais il me faut limiter l'adrénaline. J'ai pas envie de tuer quelqu'un sans en être conscient. Je ne veux pas me laisser consumer par cette part de noirceur en moi. Si je n'avais pas eu les seringues, j'aurais tué au moins 100 de personnes de plus que celles que j'ai déjà tuées. Je n'ai pas envie de faire du mal à des gens qui ne le méritent pas, et encore moins à toi. Reconnais Amir. Je sais que tu peux très bien vivre sans les seringues. Tu ne dois pas craindre cette noirceur, car elle fait partie de toi. Tu dois l'accepter et vivre avec. Plus tu luttes, et plus elle te consumera par elle. Tu ne te rends pas compte de ce que c'est de vivre avec la peur constante de blesser quelqu'un à qui tu tiens. Quand je suis en crise, je ne reconnais personne. J'inspire un bon coup. Je sais que ce que je m'apprête à dire va déclencher une grosse dispute entre nous, mais j'y ai bien réfléchi. C'est pour son bien. Il ne le verra pas tout de suite, mais sur le long terme. Il faut que tu parles de ce que tu as vécu à quelqu'un qui pourra t'aider à avancer et à enterrer les démons du passé. Je lui dis. Il hausse les sourcils. De quoi tu parles ? se renfrogne Amir.
Tu veux que j'aille voir un psychologue, c'est ça? Je n'irai jamais raconter ma vie à un inconnu.
Je sais pertinemment que les psychologues ont une mauvaise image, car les gens pensent que quand on va en voir un, c'est qu'on est fou, ou du moins anormal. Mais c'est complètement faux. Les psychologues permettent de libérer la parole et d'aider les gens à se reconstruire aussi. Les psychologues t'aident à te livrer sur ce que tu n'oses pas dire à tes proches. J'explique. Tu ne peux pas imaginer à quel point ça te soulagerait de parler de tes problèmes à quelqu'un. T'as accumulé tellement de souffrances que ça t'empêche d'évoluer. Il ne se rend pas compte, mais il a vécu des choses terribles qui agissent comme un frein dans sa vie actuelle. Amir doit dire sa vérité et assumer ce qu'il a subi. Je sais de quoi je parle. J'aimerais consulter également pour extérioriser tout ce que j'ai vécu, mais je ne suis pas encore prête. Il est toujours plus simple de parler que de passer à l'action, surtout pour soi.
Il est hors de question que j'aille voir un psychologue. Tu me prends pour qui? Je peux tout encaisser. Je veux pas inspirer la peine ou la pitié, jamais de la vie.
Hurle Amir. J'étais consciente que ce serait difficile de lui faire accepter l'idée. Il a grandi et évolué dans un milieu macho qui inculque aux hommes des valeurs aux antipodes de ce que je veux lui faire faire. Amir ne parle pas, il frappe. La violence a toujours résolu tous ses soucis. Mais il peut pas user de la violence pour ce genre de problème. Ce n'est pas en tapant dans un punching ball qu'il va oublier ce qu'il a vécu et qu'il va avancer. C'est bien plus profond que ça. Personne ne te voit comme une victime. T'as subi des sévices. Tu vois pas que ça t'empêche d'être heureux et que ça te rend aussi impulsif? Je veux juste que tu vides ton sac auprès d'une personne qui ne te jugera pas. Je sais que t'es incapable d'en parler à Ayman ou à moi parce que tu crains qu'on te voit comme un faible. Mais nous avons tous nos faiblesses, Amir. Tu dois comprendre que t'es un humain et non un monstre. J'aimerais qu'il me parle de ses craintes et de tout ce qu'il a subi. Mais il ne peut pas se mettre à nu devant moi ni me laisser percevoir ses fragilités. Il est bien trop fier pour ça.
Les hommes ne parlent pas, ils encaissent seulement,
rétorque-t-il.
Tu crois que je vais me coucher sur un canapé et raconter à quelqu'un que je me suis fait maltraiter durant mon enfance par mon propre père? Certainement pas. Ça ne compte plus dans ma vie, ça n'a aucune importance. Je me suis relevé et j'ai tourné la page.
Il est dans le déni complet. Il pense sincèrement que ses problèmes d'impulsivité et d'agressivité n'ont aucun rapport avec son passé d'enfant maltraité. Pourtant, tout est lié. Arrête de faire ton macho et de croire au principe de virilité qu'on t'a inculqué. Bien sûr que si, ça compte. Si ça ne comptait pas, tu ne souffrirais plus de tes traumatismes d'enfance. Ce n'est pas parce que tu n'en parles pas que ça ne s'est pas produit. Tu ne peux pas tourner la page tant que tu n'auras pas accepté que tu as été la victime des hommes de ton père et de ton père lui-même. Je tente de le convaincre. Amir se relève subitement et renverse tout ce qui se trouve sur son bureau. Je me lève et il s'approche de moi. Il se tourne vers moi, plein de haine. Je sais que le terme « victime » est un mot qu'il déteste et auquel il ne veut pas être assimilé. Mais il doit reconnaître qu'il a été une victime pour avancer. Ce n'est pas une honte. La honte devrait être du côté de ses bourreaux.
« Retire ce que tu viens de dire !»
ordonne-t-il.
« Je ne suis pas et je n'ai jamais été une victime. J'ai été forgée par les hommes de mon père et par Ousni. Ils m'ont endurci pour que je devienne celui que je suis. » Je ne pouvais pas être un faible qui pleure à chaque coup reçu alors que j'étais un Ben Khalif. Ils étaient obligés de faire tout ça pour me rendre plus fort.
Je n'arrive pas à croire qu'il est en train de légitimer les violences qu'on lui a infligées sous prétexte qu'il était l'héritier des Ben Khalif. Il était avant tout un enfant. Rien ne justifie ni n'excuse ces atrocités. Quand est-ce que tu comprendras que ce que tu as subi n'est pas normal ? Peu importe les raisons qui ont motivé ton père et ses hommes. Ils n'avaient pas le droit de te maltraiter alors que tu n'étais qu'un enfant. Quel que soit ton nom, tu avais le droit d'avoir une enfance et une vie normale. Aucun enfant ne mérite de subir ça. Je suis bien placée pour le savoir.
Et toi ?
Réplique-t-il.
Pourquoi tu ne veux pas comprendre que je n'étais pas un gosse normal ? J'étais le dernier héritier de ma famille. Il fallait que je sois digne de ce titre. Je n'avais pas le droit de me morfondre ni d'être faible. Je devais être fort. Tout ce que j'ai subi m'a poussé dans ce sens.
Je lui attrape les mains. Je sais que tu ne veux pas aller voir de psychologue, mais j'en ai parlé à Ayman. Et il considère que c'est une bonne idée. J'ai pris un rendez-vous en urgence et je te demande seulement de venir tout à l'heure avec moi pour le rencontrer. Je ne veux que ton bonheur. Tu le mérites. Amir semble redescendre en pression. Je le supplie du regard et il soupire. Je le fais uniquement pour vous, si ça peut vous permettre de mieux dormir la nuit. Je souris. C'est un excellent thérapeute. Il a une belle carrière à son actif. Et puis, il est aussi sexologue. Il pourra nous aider avec tes soucis de violence durant l'acte. Abasourdi, il me lance un regard terriblement noir.
Il est hors de question que je parle de sexe avec un autre homme. Jamais.
Comme si je te laissais le choix. Cabinet du Dr. Jobs, 15h45.
Je n'arrive pas à croire que tu m'aies convaincu de venir ici.
Marmon Amir. Nous sommes dans la salle d'attente du cabinet. Amir passe son temps à proférer des jurons. La porte s'ouvre. Le psychologue se tient juste devant nous. Il s'agit d'un homme d'une soixantaine d'années, avec des cheveux grisonnants arrivant aux épaules, des lunettes rondes, un nez busqué, des rides, des yeux bleus en amande et des lèvres charnues. Il nous adresse un grand sourire auquel je réponds au désespoir d'Amir. Ce dernier voudrait opérer un demi-tour, mais je l'attrape par le bras pour le forcer à entrer. La décoration du bureau est minimaliste. Une table basse, un grand divan est placé au centre de la pièce avec un canapé juste en face. Le psychologue tire le fauteuil en face du divan pour s'asseoir devant nous.
« Bonjour, »
dit-il.
« Je m'appelle Alex. »
« Je suis Chiara et voici mon mari, Amir. Vous m'avez téléphoné pour prendre un rendez-vous en urgence en m'expliquant la situation. Je me rappelle votre voix. » Il sourit puis se tourne vers Amir, qui le regarde de haut en bas. « Qu'est-ce qui vous a motivé à venir, Amir ?»
Ma femme m'a menacé de me priver de sexe si je refusais de me présenter à ce rendez-vous. Elle prend un malin plaisir à se servir de ça contre moi.
Répond-il en grognant. Je hausse les sourcils.
Votre femme semble inquiète pour vous.
Répond le thérapeute.
Elle m'a parlé de vos soucis d'impulsivité et de vos crises de colère. Je rencontre juste des difficultés à me contrôler et à gérer mes pulsions.
Depuis quand ? Amir souffle.
L'enfance.
Vous avez été maltraitée, c'est ça?
Mais quel génie! Je suis guérie, ça va beaucoup mieux, on peut partir. Merci pour tout.
Se moque Amir. Il se relève, mais je saisis sa main pour le forcer à se rasseoir et il soupire. J'ai envie de rire, mais je m'abstiens.
Excusez son attitude, il est stressé. Je suis pas stressé.
Dément Amir. Amir, reprend le psychologue. Vous rappelez-vous la première fois que vous avez été pris d'une crise de colère ?